Bonjour, bonsoir, mon nom est Louis-Philippe et bienvenue à ce D12 Échange spécial Ciao Phil! Je ne sais pas si ça va être le titre final de cet épisode, mais on est là en fait, une occasion très spéciale pour rendre hommage à M. Philip Murray qui, vu à des obligations contractuelles, va devoir se retirer au moins temporairement du podcast. Il n'a pas de date d'échéance à ça. Il doit donc réduire ses activités et, pour l'occasion, pour lui rendre hommage, comme je disais, pour faire un grand merci, on a décidé de lui dédier ce D12 Échange spécial. Et je dis « nous » parce que je ne suis pas seul ce soir. Je suis accompagné d'un autre grand bodé de Phil, un autre camarade du podcast, M. Alexis Godet. Comment ça va, Alexis?
Hey, ça va bien malgré les circonstances qu'on a.
Mais oui,
un morceau
c'est triste.
Qui va nous quitter, c'est triste, mais... Tu sais, j'ai l'impression que c'est comme...
C'est une tristesse, par contre, pleine de fierté,
oui.
De Phil, hein, qui, quand on a commencé le podcast, écoute, il n'y avait pas de diplôme, il n'y avait, avait pas de job, il n'y avait pas de diplôme.
T'es dans un band rock.
Dans un band rock. Et là, finalement, toutes ces années plus tard, il est dans un band rock, mais il a plein de contrôle, il a plein de belles avenues, sa carrière est en train de se remplir, il est en train de décoller tel...
Il donne des cours.
Écoute, il est rendu prof. Non seulement il a un diplôme, il donne des cours. C'est quand même un beau volte-face. La situation n'était pas si dramatique, j'ai un peu exagéré, mais oui, c'est à cause de très belles opportunités que Phil a décidé de saisir, qu'il réduit ses activités. Puis on est très content pour lui. On est très fiers. J'aime me dire aussi, en plus, il fait beaucoup de montage audio. J'aime me dire qu'il a fait ses dents sur les épisodes du podcast.
Ouais.
Qui veut pas, on demandait énormément de temps et d'application de la part de Phil.
Absolument.
Donc, ça aussi, on le remercie. Mais bref, ce qu'on voulait faire dans ce D12 échange, si tu me permets de l'expliquer,
un peu comme
le top 10 des top 10, on a décidé de faire un top 3 de nos moments de Phil Murray dans le podcast des vainqueurs. Donc, Alexis et moi, on en a jasé un petit peu. On n'avait pas du tout les mêmes tops. J'ai l'impression qu'on n'aime pas Phil pour les mêmes raisons. Pourtant, c'est la même personne. Et si tu me permets, je te laisserai l'honneur d'y aller d'un premier top, Alexis.
Écoute, moi, je te dirais mon numéro 3 de mon top 3. Mon numéro 3 des top 3 de Phil, je dirais que ça serait la création des 12 échanges.
Carrément, on commence par ça.
Carrément. Moi, je commence, là, je crève l'abcès. Suite avec ça. C'est la création des 12 échanges qui a amené un autre volet complètement un peu plus sérieux, un peu plus entrevue. T'sais, je pense que Phil est devenu tranquillement pas vite notre Guillaume Lepage. C'est comme il voulait faire un Tout le monde en parle. C'était le talk show de Des Vainqueurs.
Ouais.
Ça a été créé par Phil Murray.
Ben, ça amène de très bons points. Effectivement, ça a amené une touche de sérieux dans le podcast. Ça l'a permis peut-être de montrer des facettes de nous qui sont plus humaines aussi que juste d'être des personnages qui se lancent dans mille facéties. Par contre, l'analogie que tu emploies de dire que c'est notre Guillaume Lepage, ça sous-entend qu'on est Rock et Belles Oreilles. Et là, je me pose plein de questions.
Qui est Bruno?
Qui est Yves Pépeltier? qui est Richard Zetsirois?
Je pense que Richard Zetsirois, c'est Tony. Là.
Ah, ça, oui, je comprends. Je comprends. Écoute, ça pourrait être un tout autre sujet de discussion.
Ouais.
C'est excellent.
On va le noter.
Mais oui, Phil, merci d'avoir parti des 12 échanges, d'avoir créé cette belle avenue. Parce que là, maintenant, même si, exactement comme on est en train de faire, même s'il n'est plus là, on peut continuer d'aller dans cette voie parce qu'il nous a tracé le chemin. Donc, merci, Phil. De mon côté, je vais y aller aussi dans le numéro 3. Moi, mes tops sont... Tu sais, j'ai vécu les campagnes de Des Vainqueurs de l'intérieur. Donc, j'ai plein de souvenirs de moments avec Phil qui ont plus attrait avec la campagne principale de Des Vainqueurs. Je vais y aller d'un moment où Phil, son personnage de ce set, on est dans un des épisodes de la saison 2, il me semble, où... il y a eu un crossover avec Montréalopolis. Le groupe de Des Vainqueurs se retrouve dans Montréalopolis. On est à l'épisode où ils vont rencontrer Yorpos. En fait, ça a pris un épisode de bataille avant qu'ils ne le rencontrent. Mais dans cet épisode-là de bataille, ils se battent contre un homme hippopotame qui leur tire dessus avec un fusil. Et là, Phil prend trois tours pour m'a demandé s'il y a un arbre. Je dis oui, il y a un arbre dans le cimetière, où vous, dans le parc où vous êtes, mais il n'y a pas de feuilles parce que c'est l'automne, bref. Il dit parfait, je vais grimper dedans. Alors, il fait ça. Deuxième tour, il dit il n'y a pas de feuilles. Hein? Je dis non, il n'y a pas de feuilles dans ton. Alors là, il fait, avec un talent druide, pousser des feuilles pour ensuite se cacher. C'est ça qu'il a fait le troisième tour, juste rester caché parce que Phil veut se servir de toutes les aptitudes que ces bonhommes ont dans des vainqueurs. Ça, c'était tout à fait son druide, là, en plus, cercle des rêves, se cacher dans du feuillage
dans
et tout. Mais c'est un trait qu'on lui connaît en plus à l'extérieur, dans d'autres parties qu'on a joué avec lui. On en parlait tantôt, Alexis et moi. Il joue un personnage qui s'appelle Mario Pellerin dans une campagne maison, qui est un barde et qui fait tout pour éviter de se battre. Il a joué le Baron Ballet dans un des tests qu'on a fait avant de sortir des vainqueurs et qui était aussi quelqu'un qui passait ses tours à lire pour connaître les monstres pendant que ses amis se battaient. Et ce que je trouve fabuleux, c'est que c'est très roleplay de faire ça, c'est très ancré dans son personnage, mais c'est aussi, ça crée une tension d'avoir un joueur qui ne prend pas d'action de combat, qui ne prend pas d'action décisive dans un événement comme ça. Ça fait que ça met de la pression sur les autres, puis ça met une petite tension qui est toujours le fun et excitante à jouer.
Absolument. Absolument, le bon. Moi, j'abonde dans ce sens. C'est même le bon Mario Pellerin a toujours tout utilisé, tout pour ça, mais dans tous ces personnages, ils exploitent au fond. On pourrait peut-être même dire que Phil serait en bout de ligne un peu un des plus grands apôtres du vrai roleplay.
Ça, c'est vrai.
Et l'élu du vrai roleplay.
C'est ça que j'allais dire. Pas un apôtre, mais plus un prophète. Il nous a annoncé le vrai roleplay avec des années de jeu très méticuleux. Donc, voilà. Se cacher dans un arbre de Montréal aux polices dans lequel il a fait pousser des feuilles, c'était dans mon top. C'était mon top.
Toi.
Est-ce que tu veux y aller d'un numéro 2, Alexis?
Écoute, je te dirais que... Mon top 2. Toutes les one-shots, ils amènent tout le temps une saveur tout le temps un peu à l'ouest. Tous ces personnages amènent un flavor humoristique incroyable, ne serait-ce que tous nos spéciaux. C'était le spécial Zoufès, ce personnage de Phil, encore une fois, très culinaire, très rigolo, qui amène tout le temps un flavor à l'aventure.
Tu parlais aussi tantôt de Guido, Prismacolor,
ouais,
dans Garde Prismacolor,
exact. C'est l'exemple parfait aussi, Guido, Prismacolor, que tout le monde savait dès le début. Et moi, je n'étais même pas dans la campagne, mais l'ayant suivi en tant qu'auditeur, tout le monde savait dès le début.
Oh oui, c'était un traître, là, c'était un pas bon.
Mais encore une fois, incarné et qui guide la thématique complète.
Oui, qui n'a pas peur d'aller à contre-courant dans les tons proposés.
Exactement. Il va toujours à contre-courant des tons proposés et j'adore ça dans tous ces personnages.
C'est effectivement un des traits qu'il est capable de faire. Et on salue Phil pour ce beau travail encore là. Oui. Le prophète du roleplay. Tenir son
bout. Quand on avait joué à You Awaken in a Strange Place, encore une fois, c'était des personnages mémorables. Toutes nos petits one-shot, il y a toujours un moment à Phil qu'on est comme yes.
Ben, regarde, ça m'amène à mon top 2. Top 2. Moi, mon numéro 2, c'est un autre moment de ce set. Et c'est vraiment un bel exemple de comment Phil s'approprie les situations et les trucs qui lui sont imposés. Il arrive un moment dans la saison 1, je pense. Là, j'avoue que je ne me rappelle pas l'épisode exactement. Mais Griva, lui, apparaît en rêve pour lui confier que son frère, Saucisse, est l'élu de la sauce et que c'est lui qu'il faut protéger. Il y a déjà un running gag que... Ah, c'est le plus beau des deux que, justement, Phil a pris avec grâce hein, et avec humilité, que tout le monde lui impose qu'ils sont identiques, mais ça aussi, c'est quand même plus beau. C'est quand même très drôle. Et là, donc, il se fait dire que son frère, c'est l'élu de la sauce. Et là, lui, du tac au tac, interprète ça comme « Wow, ça fait de moi l'élu de la sauce. Faisant fi de la mission qui lui a été confiée, il en a profité pour se donner de l'importance, mais de vraiment intégrer ça aussi à son personnage, de « vu que je suis important parce que l'autre est important », et ça a apparu dans plein d'interactions, ça a teinté pas mal les autres saisons après. Donc, il se l'est vraiment approprié, il l'a rendu comme à lui. Il n'a pas juste pris ce qui a été donné, il a dit oui et il a rajouté quelque chose, et ça, je trouve que c'est malade.
Oui, totalement.
Totalement filou. Oh oui, tu lui donnes quelque chose, puis il file avec.
Un vrai filou.
Voilà. Donc ça, c'était mon top 2. Quel est ton top 1, bon, Alex?
Mon top 1, là, c'est on va aller dans l'escalade des choses, là. Ça serait la création même de Saucette.
Ouais, tu vas jusque-là. La jeunesse.
Ouais, je vais jusque-là. Dans le sens où, c'est ça, c'est là où je voulais en venir un peu plus tôt. Chaque fois que je parle à des gens qui viennent me parler du podcast puis tout, il y a même des gens qui... ils savent que je fais partie du podcast dans le volet des vaincus, mais il y en a plein qui ne l'ont pas écouté, mais qui, quand ils me parlent du podcast, c'est tout le temps de Saucette. Tout le temps Saucette, Saucisse, les frères Saucier. C'est comme des forever favorites. Tout le monde aime les détester. C'est comme des méchants de lutte.
C'est vrai, c'est comme des méchants de lutte un peu.
C'est comme des méchants de lutte. Tout le monde aime les détester, mais ils sont adorables, ils sont hilarants. Puis, tu sais, je me souviens des premiers, quand vous aviez fait les premiers des vainqueurs, je me souviens, et quand je les écoutais, j'étais comme, mais c'est donc ben drôle. C'est exactement ce que je recherche dans un groupe de rôlistes, ce côté léger, ce côté bon joueur, bon enfant.
Ça amène une balance, je trouve, entre, on va le dire, Andréanne, Rosie, Sébastien, Regard, qui sont des personnages qui sont très drôles aussi à leurs heures, mais qui sont peut-être plus, puis je ne dis pas ça de manière péjorative, mais plus classiques.
Ouais.
T'sais, un homme dragon, un célestial, Andréanne qui joue une rogue très investigatrice, très comme by the book. Regard qui joue un barbare, avec joue un petit peu sur le fait qu'il est comme moins intelligent que les autres, mais des personnages qu'on pourrait retrouver dans une campagne qui n'est pas nécessairement humoristique. Et ça vient balancer les frères Saucier qui, eux, sont complètement absurdes. Puis justement, ça crée des belles situations entre les deux, des beaux échanges. Regard qui se fait convaincre tranquillement pas vite de les backer, de les protéger. Mais eux autres aussi, tu sais, qui finissent par comprendre qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent tout le temps parce qu'il y a du danger. Fait que c'est ça amène justement un beau contrepoids à ce qui est plus classique dans notre podcast, d'avoir les frères Saucier. Puis c'est en grande partie... En fait, c'est au moins 50% grâce à...
Oui, au moins 50%, mais tu sais, c'est malade le nombre de fois que le monde dit « Hey, les frères Saucier, c'est malade, continuez! » Je peux rien, mais je vais passer le message. Puis... Fait que c'est là, je te passe le message.
Oui, c'est là qu'il faut en profiter. Quand après, nous avons dit « J'ai jamais de rétroaction. Si je m'en vais, c'est parce que j'ai pas de feedback. » on rit parce que... Ben, pas parce que c'est vrai. On rit parce que c'est drôle. Ben ça, c'était ton top 1. Très bon top 1, Alexis. Ouais, c'est vrai merci. Que ça, c'est assez incontournable. Mais regarde, moi, je vais y aller aussi d'un truc encore une fois en lien avec ce personnage-là de Saucette. Et c'est un running gag qui est là depuis le début. Là, vous déjà voyez qu'il y a une tendance peut-être dans mes tops. L'élu de la sauce, se cacher dans un arbre, des trucs un peu plus champ gauche, un peu plus à l'ouest. Mais moi, un des trucs que j'adore de Phil, c'est que justement, il n'a pas peur de tomber dans le piège. Puis même de faire exprès de ne pas chercher le piège. Et un des bons exemples de ça, c'est quand son personnage, qui est déjà de manière inexplicable, jumeau identique avec celui de Saucisse, croise à la fin de la saison 1, dernier épisode où on a rencontré le Marquis de Jal, il croise un sosie identique de lui, mais avec les favoris. Ça, 5. Donc, on introduit un nouveau personnage. Premier sosie qui n'est pas les deux frères. Et il fait comme si de rien n'était. Il boit ses paroles. Il fait tout ce qu'il dit sans poser de questions. Il le laisse monter dans la chambre du Marquis Jack, qui n'était clairement pas le choix stratégique à faire. Et ça a mené à presque la mort du Marquis. Ça aurait eu des grosses conséquences pour toute la gang du podcast. Là. Ça n'aurait pas été la même fin de saison, pantoute. Mais jouant de manière très naïve, il laisse tout ça arriver. Puis après ça, il réagit avec les conséquences de « Ah, mais là, puis justement, il s'est porté au secours du marquis. » Mais ça, c'est très drôle. Et à travers ça, il y a le renégat que depuis ce moment-là, à chaque fois qu'il croise un autre sosie, sos 4, donc sos 5, ils font comme si de rien n'était les frères, puis ils font comme si c'est bien normal. C'est ben oui, bien, bien, bien normal. Ça me fait mourir. Et c'est
tout le monde
un bel
devrait
nous
ressembler.
Oui, c'est ça. Il faut que les autres gens le disent. À un moment donné, Sébastien, en regard, qui est comme « Mais allez-vous dire quelque chose, bon sang, ils paraissent comme vous. » Puis là, c'est Phil, en plus, qui répond « Ben, moi, mon frère me ressemble. Je suis habitué. C'est quelque chose qui se peut. Là. C'est pas impossible. »
Le monde genre... peut que ça ressemble. « Get over it. »
Ah, c'est... je trouve ça succulent. Puis moi aussi, tu disais, tu sais, ce que t'aimes écouter. Moi, c'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime écouter, c'est ce que j'aime jouer, c'est ce que j'aime avoir comme ambiance dans mes tables. Je pense que c'est un peu ça qui fait qu'on a ce beau projet de podcast, c'est pour avoir
absolument
du plaisir puis le partager avec le plus grand nombre de gens possible, parce que c'est le fun, connaître les histoires, être à l'intérieur de ce qui se passe. On aime bien ça, en tout cas.
Absolument, mais sinon, tu sais, si je peux me permettre peut-être un deuxième top 1, là.
Deuxième top 1!
C'est plus pour le travail, tout le travail de l'ombre que Phil a fait. Je pense que Phil est un MVP, si on permet le...
Absolument.
L'anglicisme. Ouais, un vrai vaillant primate, parce que le nombre de travail que Phil a mis sur le montage, sur...
Les thèmes, les jingles.
Les thèmes, les jingles, nous montrer, tu sais, je ne l'ai pas fait tant que ça, mais juste nous préparer un tutoriel pour toute cette implication-là, ça ne peut pas passer sous silence. Et c'est ainsi que je te remercie. Je pense que c'est pour ça que tu es peut-être le top 1 de des vainqueurs et des vaincus, Phil.
Oui, mais puis je suis content que tu le soulignes, parce que je voulais justement pas passer sous silence cette implication-là, ce travail d'arrache-pied et colossal qu'il a mené tout au long des dernières saisons. Surtout que, bon, il y a eu plein de... Ça paraît pas pour... personne, parce que c'est dans l'ombre, comme tu le disais, mais il y a eu des rotations dans les gens qui ont monté. Peut-être même que certaines personnes ont senti qu'il y avait des personnalités dans le montage qui étaient différentes. Moi, j'ai fait du montage. Charliette en a fait aussi. Mmh. On a eu Jonathan Barbe, on a eu Simon Leroux. On a eu plein de gens qui ont mis l'épaule à la roue, mais Phil a vraiment fait un beau travail là, d'uniformiser tout ça, puis de justement former d'autres personnes pour être meilleurs dans leur montage. Il a repris ça sur ses épaules. Donc, il va laisser un grand vide derrière lui, mais il ne sera jamais oublié.
Jamais.
Jamais. Alors, bref, c'est ce qui conclut notre top 3 des meilleurs moments de Phil Murray dans le podcast Des vainqueurs et des vaincus. J'espère que vous êtes contents malgré la triste nouvelle. Réjouissez-vous, en fait, plutôt pour notre ami qui vit de belles choses présentement. On lui souhaite tout le succès du monde et on espère le revoir très bientôt. Hein, peut-être une apparition spéciale, un flashback.
Un one-shot quelconque.
Ben oui. Oui, c'est ça. Là, on n'a pas enlevé son numéro de notre téléphone. Là. Ne vous inquiétez pas, on va continuer de le côtoyer, c'est sûr et certain.
Yes.
Eh bien, sur ces belles paroles, sur ces beaux mots d'amour, merci Alexis d'avoir été parmi nous pour ce D12 échange.
Bon, tout le plaisir était pour moi, mon cher Louis-Philippe.
Ah, écoute, tu m'envoies ravi. Et pour les autres, j'aimerais vous rappeler que quoi que vous fassiez d'ici notre prochaine rencontre, faites-le avec cœur. Ciao, ciao!
Ciao! Ouais.